VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le Monde aujourd'hui, édition du vendredi 8 novembre 2019. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Bénin, le président Patrice Talon a promulgué hier la nouvelle constitution du pays après le vote d'une révision constitutionnelle du Parlement la semaine dernière.
Un chef djihadiste malien, Amadou Koufa, a été placé sur la liste terroriste des États-Unis. Il est accusé d'avoir mené de multiples attaques dans le centre du Mali.
Libye, des experts de l'ONU déplorent dans un rapport l'intensification d'un conflit par procuration dans ce pays.
Soudan du Sud, un délai de 100 jours a été accordé hier au président Salva Kiir et au chef rebelle Riek Machar pour former un gouvernement d'union nationale.
Trois mots, enquête, Biden et Clinton, c'est ce que le président américain Donald Trump aurait voulu entendre publiquement de son homologue ukrainien, selon un haut responsable du département d'État.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Au Bénin, le président Patrice Talon a promulgué hier la loi modificative de la Constitution adoptée par les députés il y a une semaine. La veille, les membres du gouvernement avaient, lors du Conseil des ministres, salué à l'unanimité ce qu'ils ont appelé les innovations contenues dans la loi modificative et le patriotisme des députés. De Cotonou, les précisions de notre correspondante Ginette Fleura Dandé.
C'est fait. La révision constitutionnelle entre dans l'histoire politique du Bénin. Après plusieurs tentatives infructueuses, la pilule finit par passer, même si elle laisse assez de récriminations dans le rang des forces de l'opposition. Fidèle à sa démarche de reddition des comptes depuis la convocation du dialogue politique, le chef de l'État a fait le point de l'évolution de la mise en œuvre des recommandations consensuelles des assises de Cotonou. En conseil des ministres du mercredi 6 novembre 2019, Patrice Talon a salué la qualité du travail qui a été fait par les députés qui, selon ses dires, ont veillé à préserver les piliers fondamentaux du modèle démocratique et politique béninois. Il s'agit, entre autres, du caractère républicain et unitaire de l'État, de la laïcité, de la limitation du nombre de mandats présidentiels et de la limitation de l'âge des candidats à l'élection présidentielle. Cette promulgation laisse de nombreuses questions et des sentiments divers dans le cœur des Béninois qui espéraient une révision consensuelle de la Constitution. De Cotonou, Ginette Fleura Dandé pour VOA Afrique.
Par ailleurs, le président Talon a annoncé le retrait des réserves de change du franc CFA qui se trouvent actuellement en France, indiquant qu'elles seraient versées aux banques centrales partenaires dans le monde sans donner de calendrier précis. Et ce, dans une interview accordée à la radio RFI et à la chaîne France 24. Le président béninois a d'autre part souhaité le retour au Bénin de l'ancien président Boni Yayi, qui se trouve actuellement en exil après des mois de crise politique. De par la noblesse de sa fonction d'ancien chef d'État, son adversaire politique doit faire, je cite, « l'objet de traitements particuliers ».
Les Guinéens ont manifesté en masse hier dans la capitale, Conakry, contre un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé. Tout s'est passé dans le calme. Le point avec Abdourahman Dia.
Rouge, aux couleurs de l'opposition, une marée humaine s'est étirée sur plusieurs kilomètres, menant au stade du 28 septembre par l'autoroute Fidel Castro. Cette nouvelle mobilisation s'annonçait à haut risque, mais s'est finalement déroulée sans heurts. Des dizaines de véhicules de la police et de la gendarmerie ont jalonné le parcours. La foule scandait « Amoulanfe », qui signifie « ça ne passera pas », réclamant aussi la justice pour les morts et la libération des opposants emprisonnés. Au moins 16 civils et un gendarme ont trouvé la mort depuis le 14 octobre. Des dizaines de personnes ont été arrêtées. Le Front national pour la défense de la Constitution qui organise ces manifestations veut faire barrage à un projet prêté au président Alpha Condé de briguer un troisième mandat en 2020 et pour cela de vouloir réviser la Constitution qui limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. À 81 ans, M. Condé n'a rien dit sur ses intentions mais a lancé en septembre des consultations sur la Constitution. La semaine passée, les partisans du président ont organisé leur propre manifestation à Conakry.
L'ancien chef des jeunes patriotes ivoiriens Charles Blé Goudé en liberté conditionnelle dans l'attente d'une décision de la Cour pénale internationale sera jugé par un tribunal de son pays pour des crimes présumés commis entre 2010 et 2011. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Le tribunal va le juger pour des faits concernant des actes de torture, homicide volontaire, viol, a déclaré le procureur général de la Cour d'appel d'Abidjan, Léonard Lébri. Il a assuré, je cite, qu'il n'y a pas d'identité des poursuites entre les faits jugés par la CPI et ceux examinés par les juridictions ivoiriennes, non seulement parce qu'ils ne concernent pas les mêmes événements, mais ensuite parce qu'ils ne couvrent pas la même période. Les avocats de Blé Goudé se sont retirés de la procédure, disant n'avoir eu accès à une pièce maîtresse que quelques heures avant de devoir déposer leur mémoire. Le procureur général a réfuté tout agenda politique dicté par le pouvoir à moins d'un an de la présidentielle. Des membres de l'opposition estiment que le pouvoir met tout en œuvre pour empêcher le retour de l'ancien président Laurent Gbagbo, aussi en liberté conditionnelle en Belgique, dans l'attente de la décision de la CPI. Mardi, la justice ivoirienne a confirmé en appel la condamnation à 20 ans de prison de M. Gbagbo pour le braquage de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest pendant la crise post-électorale de 2010-2011.
Sahel, les États-Unis ont placé jeudi sur leur liste terroriste Amadou Koufa, le chef d'un groupe djihadiste malien affilié à Al-Qaïda. Il est accusé d'avoir mené de multiples attaques dans le centre de son pays. Amadou Koufa, un prédicateur, membre de la communauté Peul, est le chef de la Katiba Massina, active dans la région au nom du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, principale alliance djihadiste du Sahel. Selon le département d'État, ce groupe est responsable de la mort de plus de 500 civils depuis 2 ans. Parmi ces attaques figure une action simultanée contre l'état-major général des armées du Burkina Faso et l'ambassade de France à Ouagadougou en mars 2018, qui avait fait 8 morts et 85 blessés.
Libye, la Jordanie, les Émirats arabes unis, partisans du maréchal Khalifa Haftar, et la Turquie, soutien du gouvernement du premier ministre Fayez al-Sarraj, ont violé l'embargo sur les armes imposé depuis 2011 à ce pays. C'est ce qui ressort d'un rapport confidentiel d'experts de l'ONU chargé de son contrôle. Selon l'AFP, les Émirats arabes unis, par exemple, sont soupçonnés d'avoir utilisé des avions bombardiers au profit des troupes du maréchal Haftar. Mais le rapport n'établit pas clairement leur implication dans le bombardement d'un centre de détention de migrants dans la banlieue de Tripoli le 2 juillet, bombardement qui avait fait une cinquantaine de morts.
Un délai de 100 jours a été accordé hier aux frères ennemis sud-soudanais, le président Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar, pour leur permettre de former un gouvernement d'union nationale. Éric Manirakidza.
Les partis se sont accordés pour étendre la période de pré-transition de 100 jours à compter du 12 novembre 2019, a déclaré hier Sam Kutesa, ministre ougandais des Affaires étrangères. Les deux protagonistes n'ont fait aucun commentaire après leur rencontre à Entebbe près de Kampala. Le gouvernement de transition a été initialement prévu en mai dernier, mais a été repoussé au 12 novembre en raison de désaccords persistants concernant notamment la formation d'une armée unifiée et les frontières des États régionaux. Le statut de Riek Machar, qui vit en exil à Khartoum, et sa sécurité une fois rentré à Djouba ne sont pas encore réglés. En juillet 2016, de violents combats avaient opposé leurs troupes à Djouba. Un premier accord de paix signé en août 2015 venait de voler en éclats. Salva Kiir et Riek Machar ont surmonté la profonde défiance pour signer en septembre 2018 un nouvel accord de paix à Addis Abeba. Un an après, cet accord n'a toujours pas enregistré de progrès tangibles, faisant craindre le risque d'une reprise des combats.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le président américain Donald Trump voulait essentiellement que son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky se présente devant un micro et prononce ces 3 mots. Enquête Biden et Clinton. C'est ce qui ressort du témoignage de George Kent, un haut responsable du département d'État devant les enquêteurs de la Chambre des représentants. Les parlementaires démocrates cherchent à déterminer si M. Trump a tenté de lier à ces conditions une aide militaire américaine de quelque 400 millions de dollars à Kiev.
L'objectif de cette enquête, une éventuelle procédure de destitution contre le président Trump qui dément et dénonce une chasse aux aux sorcières. Le diplomate américain s'est dit également préoccupé par, je cite, « un effort visant à initier à des fins politiques des poursuites préjudiciables à la primauté du droit en Ukraine comme aux États-Unis ».
L'ancien maire de New York, le milliardaire Michael Bloomberg, pourrait bientôt briguer lui aussi l'investiture du Parti démocrate pour la présidentielle de 2020. Il devrait déposer les signatures nécessaires dans l'État d'Alabama qui requiert des candidats qu'il s'enregistre plus tard ce vendredi. Selon ses collaborateurs, M. Bloomberg, classé 9e homme le plus riche du monde par le magazine Forbes, n'a pas encore pris de décision définitive. Mais il se dit préoccupé par le fait que les candidats démocrates actuels ne sont pas à la hauteur face au président républicain Donald Trump en novembre 2020.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
L'Italien Saipem a remporté un contrat d'environ 100 millions de dollars en Guinée équatoriale pour la construction d'un pipeline sous-marin de 70 km reliant la plateforme d'Alen au centre pétrochimique de Punta Europa. Les livraisons de gaz du projet exploité par Noble Energy devraient commencer en 2021. Le gazoduc desservira les gisements de gaz offshore et aura une capacité de 950 millions de pieds cubes de gaz par jour. Il fait partie des projets visant à relier divers gisements de gaz offshore à des installations de gaz naturel liquéfié à terre et à transformer l'île de Bioko en une plaque tournante du traitement du gaz. Le Sénégal établit de nouvelles lois qui vont régir l'offre énergétique. Ce nouveau processus d'adjudication juridiquement contraignant garantira la transparence d'un nouveau cycle d'octroi de licences pétrolières et gazières, estime le directeur général de la Compagnie pétrolière nationale. La négociation de l'octroi de licences de façon directe ou de porte à porte sera évitée s'il est possible de faire autrement. Pour terminer, les autorités congolaises déclarent nulle et non avenue la suspension des activités de la société canadienne Bonro sur plusieurs de ses sites en République démocratique du Congo. En septembre, Bonro a déclaré que sa mine de Namouya était submergée par des miliciens Maïmaï, l'obligeant à déclarer la force majeure et à suspendre ses activités sur certains sites.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Début ce vendredi de la CAN des moins de 23 ans.
Oui, l'enjeu de la compétition concerne les tickets pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020. Trois sont en jeu. Pays hôte, l'Égypte, a quelques faveurs de pronostic. Le pays des pharaons veut déjà effacer la piètre prestation de son équipe nationale A lors de la CAN 2019 à domicile. Champion en titre, le Nigeria sera aussi à suivre. Pour sa deuxième participation, le Mali s'avance avec beaucoup d'ambition. De son côté, espérant que les difficultés rencontrées dans la préparation ne se répercutent pas sur ses matchs, l'Afrique du Sud espère tirer son épingle du jeu. Le Cameroun avance dans l'inconnu. Son sélectionneur Rigobert Song doit faire sans quelques noms déterminants durant les éliminatoires. Autre pays à sa première participation, le Ghana, avec le Bring Back the Love, nouveau slogan de la nouvelle fédération. Les Ghanéens croient en cette qualification pour Tokyo. Puis il y a la Côte d'Ivoire et la Zambie qu'il ne faudra pas négliger.
Samuel Eto'o estime que les joueurs africains ne sont pas respectés.
L'ex-attaquant camerounais, récemment retraité des pelouses, l'a affirmé lors d'un entretien accordé à l'AFP avant la clôture ce vendredi des votes pour le Ballon d'Or France Football. On écoute Samuel Eto'o.
Les joueurs africains ne sont pas respectés, mais en premier par leurs propres frères. C'est ce qui est dommage. Mais quand je le dis, certains se braquent. Ils disent, mais pourquoi ils le disent? Mais parce que c'est vrai, parce que c'est un fait. Parce que depuis des années, avant moi, avant que je n'arrive dans ce business, c'était déjà le cas. C'était une opportunité pour l'Afrique de voir un Sadio Mané, un Mohamed Salah être là au podium et pourquoi pas gagner. Et ça n'aurait choqué personne.
Début ce soir aussi à Johannesburg du championnat d'Afrique de rugby à 7.
Cette compétition est aussi qualificative pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020. Pendant deux jours, le Ghana, le Botswana, la Côte d'Ivoire, le Kenya, Madagascar, Maurice, le Maroc, la Namibie, le Nigeria, le Sénégal, la Tunisie, l'Ouganda, la Zambie et le Zimbabwe vont faire le spectacle au Bosman Stadium. Les spécialistes donnent le Kenya favori. Chez les femmes, le tournoi a eu lieu en octobre avec une défaite 15-12 du Kenya devant l'Afrique du Sud. Mais ce sont bien les Lionesses qui représenteront le continent à Tokyo. La nation arc-en-ciel a décidé de ne pas enregistrer son équipe. NBA, pour finir avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière.
et les Clippers et Portland 107 à 101, Boston et Charlotte 108 à 87, San Antonio et Oklahoma City 121 à 12, Miami et Phoenix 124 à 108.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Retour sur l'embuscade tendue au Burkina Faso à un convoi transportant des employés d'une société minière canadienne dans l'est du pays et qui a fait mercredi 38 morts selon le dernier bilan et des dizaines de blessés. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière enregistrée au Burkina depuis le début des violences djihadistes il y a près de 5 ans. Notre correspondant à Ouagadougou, Lamine Traoré.
Au lendemain de l'attaque qui a fait 38 morts et des dizaines de blessés, c'est la tristesse et la consternation dans les rues de Ouagadougou.
En toute sincérité, on est très triste. Vraiment, ça nous écœure beaucoup.
Amadou Ouedraogo est commerçant à Ouagadougou.
Franchement, les autorités, ils doivent savoir comment faire pour nous sortir de là. Parce que actuellement, on est pris entre les quatre murs. Nos autorités, apparemment, ils ne font pas l'effort de lutter, ils ne prennent pas. C'est comme genre, ils ne prennent pas le problème à bras le corps.
Céline Oubda est étudiante.
Vraiment, ça me touche le cœur de savoir que non, j'ai des frères et des sœurs qui meurent chaque jour parce qu'il y a eu une attaque par-ci, par-là. Si ce n'est pas des militaires, ce sont des gendarmes, la gendarmerie, les policiers. Ce n'est pas une question du gouvernement. Il faudrait que la population même réagisse en fonction de ça. Il ne faudrait pas que nous, on est là, le gouvernement doit faire ça, le gouvernement doit faire ça. Il faudrait que nous tous nous y mettons.
Le président Kabore, qui a toujours condamné énergiquement, pour reprendre ses termes, les attaques sur son compte Twitter, s'est adressé à la nation cette fois-ci. En plus du deuil national décrété, Roch Kabore appelle à la mobilisation générale.
J'engage les forces de défense et de sécurité à traquer et combattre sans concession les terroristes et tous leurs complices et appelle notre peuple à la mobilisation générale contre le terrorisme. Dans ce sens, j'ai ordonné le recrutement de volontaires pour la défense de la patrie dans les zones sous menace. Seule une mobilisation générale des fils et des filles de la nation, sans considération de région, d'ethnie, d'opinion politique et de confession religieuse est à même de vaincre ces meurtriers sans foi ni loi qui rêvent de soumettre notre patrie et notre peuple courageux à leur dictat machiavélique.
Pour l'analyste Siaka Koulibaly, cette décision de recrutement de volontaires pour la défense de la patrie doit être bien encadrée.
C'est une mesure qui peut s'insérer dans le cadre d'un dispositif cohérent de défense du territoire. Mais s'il s'agit juste de mobiliser les jeunes afin qu'ils jouent un rôle distinct du travail que font les forces de défense et les services de sécurité, je crains que l'opération non seulement ne donne pas de résultats, mais même qu'elle peut exposer les populations au terrorisme encore plus que par le passé.
Les autorités pensent que le pays pourra faire face à cette lutte, mais c'est la déception au sein de la population qui estime qu'il faut encore faire plus. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Au Sénégal, se déplacer en voiture à Dakar, la capitale, relève d'une gageure, à moins qu'on n'ait pas peur des embouteillages monstres, comme l'indique Seydina Abagué dans ce reportage.
Les embouteillages à Dakar sont devenus un casse-tête pour les automobilistes et les populations qui ont du mal à se déplacer pour leurs activités quotidiennes. Des désagréments que Mamoudou Sall subit chaque jour dans des conditions qu'il dénonce.
C'est souvent l'occupation anarchique des voies publiques, c'est à cause des embouteillages. Et l'occupation, quand je dis l'occupation anarchique des voies publiques, ça, eh bien, marchands ambulants, jusqu'aux, je sais pas, aux automobilistes et consorts. Donc, je n'ai parlé de personne. Ça veut dire que c'est tous les Sénégalais, quand même, qui devraient veiller donc, à l'ordre normal des choses. Il doit d'abord y avoir des leçons de civisme, peut-être, Mais après, peut-être une surveillance.
Les automobilistes sont les plus touchés par ce phénomène car ils restent coincés dans les embouteillages pendant des heures. Et au-delà de l'aspect économique, ces derniers craignent pour leur santé, comme l'indique Mamma Tarsek.
Non,
je suis dans la circulation de 8h à 23h et je vous dis que la pollution est également un aspect. Il y a les cars qui sont vétustes, qui sortent de la fumée. On inhale cette fumée-là, on respire cela, ça passe par nos poumons. Et ça peut nous donner des maladies. On ne sait même plus à quel sens se vouer et on craint même d'attraper des maladies dans ces situations.
Des conséquences sur le plan sanitaire, il y en a énormément à cause de la pollution. Le constat est du médecin généraliste Sidi Ababacar Tall. Ce dernier estime que les zones urbaines sont les plus touchées à cause du taux de pollution élevé.
Ces particules sont retrouvées en grande quantité dans les zones urbaines, entre autres le dioxyde de carbone, communément appelé gaz carbonique, le monoxyde de carbone, l'ozone ou les particules fines. Donc ces particules peuvent être à l'origine d'infections cardio-respiratoires sur une longue exposition.
Les travaux routiers inachevés et certains dysfonctionnements dans la gestion urbaine sont les principales causes des embouteillages dans la capitale sénégalaise. C'est du moins l'avis de l'expert cartographe Mamoudou Farbassi.
Le gouvernement augmente des routes, mais les véhicules aussi viennent. Donc c'est un problème. De deux aussi, il y a pas mal d'autres ponts qui sont en train d'être construits. Donc quelque chose qui est en travaux qui n'est pas encore terminé, ça peut être source d'embouteillage en quelque sorte, vu qu'on barre certaines routes pour pouvoir en construire d'autres.
Face aux embouteillages qui prennent de plus en plus d'ampleur à Dakar, les autorités ont annoncé la mise en place de plusieurs projets d'aménagement routier. La construction d'une vingtaine d'autoponts est d'ailleurs en cours dans la capitale sénégalaise. Le président Macky Sall a également lancé les travaux du bus rapide transit qui a pour objectif principal de faciliter la mobilité urbaine dans Dakar et sa banlieue pour un coût global d'environ 300 milliards de francs CFA. À Dakar, Seydina Abagui pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Nous vous le disions hier, les ministres des Affaires étrangères de l'Égypte, du Soudan et de l'Éthiopie se sont rencontrés mercredi à Washington, où ils ont été reçus par le président Donald Trump. Ce dernier a dit vouloir aider à résoudre la dispute concernant le barrage éthiopien de la Renaissance qui est en train d'être construit sur le Nil bleu. Pourquoi les eaux du Nil sont-elles si importantes pour ces trois pays? Idriss Fall a joint Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines.
Historiquement, l'Égypte ne peut pas vivre sans l'eau du Nil et avec la population qui est en pleine expansion. Si vous coupez même un petit pourcentage de l'eau, l'Égypte sera en grande difficulté. Donc, avec ce barrage que les Éthiopiens sont en train de construire, il y a un grand risque que l'Égypte va perdre un certain pourcentage de leur eau.
L'Éthiopie aussi a besoin d'avoir de l'électricité, de sortir de la pauvreté.
Bien sûr, il mérite d'avoir l'électricité. Mais il faut trouver un moyen que l'eau qui va passer par le barrage ne va pas diminuer l'eau qui va entrer en Égypte.
Le Soudan, dans tout ça, le Soudan qui est au milieu, coincé entre ces deux puissances régionales.
Le Soudan aussi a besoin de cette eau. Le Soudan reçoit l'eau du Nil Blanc qui vient de l'Ouganda. Donc, ils sont moins concernés, mais quand même, ils ont besoin de cette eau. Donc, ils ont le même problème que l'Égypte.
Mais l'Égypte avait déjà le plus grand barrage, le barrage d'Assouan.
Oui, bien sûr, mais ça coupait pas l'eau. Ça laissait l'eau passer et donne l'électricité aussi. Ce que l'Égypte désire, c'est que l'Éthiopie laisse passer toute l'eau. Bien sûr, prenez votre électricité, mais il ne faut pas garder l'eau. Et un autre problème, c'est de remplir le grand bassin derrière le mur. L'Éthiopie veut remplir ça dans 4 ans. Et ça va couper l'eau pour l'Égypte. Et l'Égypte remplissait ça pendant 7 ans.
C'est des questions vitales pour les deux pays.
Oh, c'est moins vital parce qu'il y a différents moyens d'avoir l'électricité. Les dirigeants d'Éthiopie qui ont leurs problèmes internes maintenant, ils ne veulent pas donner l'impression qu'ils sont faibles devant les Arabes. Dans l'histoire, les Éthiopiens avaient toujours des problèmes avec les pays arabes. Ils ne peuvent pas montrer qu'ils sont faibles, donc ils parlent comme ça. Mais si les États-Unis proposent une solution, tout le monde va dire « Oh, les États-Unis ont proposé ça ». on va accepter.
Mais qu'est-ce que les États-Unis peuvent proposer alors?
À mon avis, la solution, c'est que l'Éthiopie est d'accord pour laisser passer tout l'eau, garder rien, parce qu'ils n'ont pas besoin d'arroser chez eux. Et aussi, au lieu de remplir le grand bassin dans 4 ans, disons, entre 7 ans, peut-être 6 ans, il y a des compromis faciles. Et c'est pourquoi l'Amérique dit, oh, nous allons trouver une solution. Donc, si vous n'êtes pas content, c'est la faute des États-Unis.
L'Union africaine, pourtant, ils sont basés à Addis Abeba. On ne les entend pas dire quoi que ce soit sur cette question.
Oui, c'est dommage. Normalement, ça doit être l'Union africaine. Ils ne se sont pas proposés. Donc, c'est l'Amérique qui est entrée pour remplir le vide.
C'était Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
L'armée Sierra Leonaise organise régulièrement des séances de yoga pour aider ses soldats à faire face au traumatisme de la guerre civile qui a sévi en Sierra Leone de 1991 à 2002. Une pratique qui, avec le temps, s'est avérée bénéfique pour de nombreux anciens enfants soldats, toujours hantés par les démons du passé. Arzuma Compaoré.
Le soldat de première classe, Michael Karkbo, dit qu'il n'a pas réussi à oublier les souvenirs douloureux de son enfance dans la guerre civile en Sierra Leone. Jusqu'au jour où il a découvert le yoga.
Je suis traumatisé, mais je suis maintenant capable de me contrôler grâce au yoga.
L'armée sierra-léonaise organise régulièrement des séances de yoga pour aider les soldats à faire face au traumatisme du conflit de 1991 à 2002 qui a tué environ 50 000 personnes. C'est à l'âge de 12 ans que Karkbo a été kidnappé par des rebelles.
Nous avions des garçons qui avaient tué leur mère et leur père avant même d'avoir l'âge de 12 ans. C'est à cet âge-là qu'ils m'ont amené et je suis resté avec eux jusqu'à ce que je grandisse. Je n'avais personne pour m'aider ou m'encourager et personne pour m'aider à retrouver une vie normale. Personne. J'ai continué à me battre avec eux, accumulant des traumatismes et tuant des innocents.
Aujourd'hui, Karkbo est d'environ 100 militaires, hommes comme femmes, au quartier général de l'armée à Freetown, aux côtés de l'homme qui a persuadé ses supérieurs sur les avantages du yoga, le sergent Félixon Moussa.
Vous vous créez vos propres problèmes et après vous blâmez les gens. Pourquoi faites-vous cela?
Moussa a été lui-même formé par Tambia Faya, un autre ancien enfant soldat, qui est devenu le premier professeur de yoga qualifié en Sierra Leone en 2012. Ensemble, ils ont donné des cours de yoga gratuits dans les bidonvilles de Freetown. Mais en 2014, Faya est décédé, victime de l'épidémie d'Ebola qui a ravagé le pays. Moussa s'est alors résolu à poursuivre l'œuvre de son professeur.
Tu sais, lorsque je fais du yoga, je ne pense plus à ce qui s'est passé. Je pense au moment présent. C'est ce que je leur dis toujours. Oubliez le passé. Je sais que vous avez beaucoup souffert et pendant assez longtemps. Pensez à ce que vous êtes en train de faire.
Au cours de la prochaine année, Moussa espère pouvoir étendre le programme de yoga à des urgentistes, des employés d'hôpitaux et d'autres personnes qui pourraient avoir du mal à faire face à des expériences traumatisantes.
Participez à notre magazine interactif à votre avis du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets sans tabou, politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique et voaafrique.com. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique.
Bonjour, c'est Yacouba Ouidraougo. Tout le lundi soir, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs. Rendez-vous en direct dans Sporama à 19h temps universel. Pour participer, c'est très simple. Vous pouvez appeler en direct ou laisser vos commentaires et numéros de téléphone sur notre page Facebook. Nous Nos spécialistes du sport sur le continent sont là pour vous apporter leur éclairage. À très vite sur le terrain de VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, notre ami Darrell Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.